Chapitre 7. Au cours de la semaine qui suivit le départ d'Eliane, Pierre Nehard ne se rendit pas une seule fois à son bureau. Le souvenir de la jeune fille ne quittait pas son esprit. La nuit, quand il s'éveillait, il cherchait Eliane à tâtons, puis une sensation de solitude, comme il n'en avait jamais connue, l'empoignait. Il lui apparaissait, à présent, qu'il avait agi avec dureté, qu'il n'eût pas dû abandonner ainsi cet enfant sans défense. La pensée de se rendre rue Rosa Bonheur auprès de Madame Gély lui venait souvent. Mais il ne pouvait se décider à tenter cette démarche. Eliane avait affirmé tant et tant de fois qu'elle préférerait mourir que de retourner auprès de sa mère après ce qu'elle avait fait, qu'il appréhendait que celle-ci ne lui fît une scène terrible. Mais ce qui l'affectait le plus, c'était d'ignorer où se trouvait Eliane. Il éprouvait le besoin impérieux de la revoir, de lui parler. Presque chaque soir, il se rendait rue d'Amsterdam avec l'espoir qu'elle retournerait au bar-restaurant, mais toujours en vain. Lorsqu'il rentrait chez lui, après avoir erré des heures, il demeurait un instant comme stupéfait. L'appartement désert lui faisait horreur d'être encore rempli de la présence de celle qu'il avait aimée. Partout, il trouvait des traces de la jeune fille. On eût dit qu'elle l'habitait toujours et que ce n'était que pour un instant qu'elle était sortie. Il se mettait alors à pleurer doucement. Sa douleur avait été telle, en surprenant Eliane en compagnie de jeune homme, qu'à présent il ne réagissait plus. Les larmes lui venaient, semblait-il, sans raison. Il arrivait qu'il ne pouvait les retenir dans la rue, dans un café. Elles coulaient alors de ses yeux aussi naturellement que si elles eussent été causées par le froid. Il ne se cachait même plus le visage. Et s'il remarquait qu'on le regardait, il feignait d'ignorer qu'il pleurait, et portait son attention sur un passant quelconque, comme si ce n'était pas la souffrance qui provoquait ses larmes, mais un grain de poussière sous sa paupière. Chaque matin, il quittait plus tôt sa demeure. Chaque soir, il y rentrait plus tard. Il avait remercié la bonne. Tous les gens qui avaient connu Eliane, il ne pouvait plus les supporter. Ainsi, lorsqu'il rencontra un certain Gounod, qu'il avait présenté à la jeune fille, lui tourna-t-il brusquement le dos, alors qu'il se trouvait à trois pas devant lui, sans même songer que, par cette attitude, il s'aliénait à jamais ce camarade. Mais sa douleur, depuis qu'il vivait seul, n'était plus aussi bruyante, bien qu'elle eût plus de raison de l'être, lorsque la jeune fille la faisait naître par de simples accès de mauvaise humeur. Après un mois, on eût dit, à l'observer, que des années s'étaient écoulées depuis son infortune, mais qu'il ne s'en était pas remis. Il ne parlait presque plus, ne se rendait que rarement à son bureau. Il avait congédié son employé, il assumait seul le courrier. L'idée de vendre son entreprise l'avait déjà effleuré plusieurs fois. « Il vaut mieux que je quitte Paris, que je parte loin, très loin. » Les semaines s'écoulaient sans que le moindre changement s'opérât en lui. Au contraire, il devenait de plus en plus taciturne. Rien ne l'intéressait ni ne le distrayait. Quand il s'éveillait, au lieu de se réjouir à l'idée de recommencer une nouvelle journée, il s'efforçait de se rendormir. Il somnolait alors jusqu'à midi et le moindre bruit le mettait en colère. Le dégoût que lui inspirait son entreprise ne faisait que s'accroître. Il la chargeait de son malheur. C'était à cause d'elle qu'il n'avait pas eu de chance. Au milieu de ses commerçants, il s'était alourdi. Sa vie s'écoulait ainsi, éclairée par le seul espoir de rencontrer un jour Eliane. Il ne savait pas ce qu'il lui dirait, ce qu'il ferait, mais il voulait la revoir. Peu à peu, pourtant, une ligne de conduite commença à se préciser dans son esprit. Acquérir une grande fortune pour exercer une sorte de vengeance lorsqu'il rencontrerait la jeune fille. Elle regretterait ce qu'elle avait fait. Le soir, quand il était couché, il imaginait cette rencontre pour laquelle, désormais, il allait vivre. Il se voyait descendre d'une automobile et, au moment où il faisait quelques pas sur le trottoir, Eliane venait à lui. Elle serait vêtue misérablement et le regarderait avec admiration. Il l'inviterait à faire une promenade. Elle accepterait et tout ce qu'elle avait enduré sans lui ferait qu'elle consentirait de nouveau à partager sa vie. La nuit et la fièvre aidant, son imagination ne s'arrêtait plus. Il conduisait Eliane chez les plus grands couturiers, chez les plus grands joailliers. Elle ne cessait de le regarder avec amour et reconnaissance. Tous deux partaient pour l'Italie. Le passé était oublié. Elle se donnait à lui de tout son cœur. Chaque jour, ses rêves prenaient plus d'importance. Sa fortune était telle qu'il faisait construire une villa à Biarritz, qu'il achetait un appartement dans le quartier de l'Étoile. Eliane boudait quand il la laissait seule. Elle voulait le suivre partout. À chaque instant, elle l'embrassait, lui prenait les mains, lui demandait un objet qu'il lui donnait sur le champ. Le matin, quand cette fumée s'était dissipée, Pierre Neuhard se sentait tellement découragé, tellement abattu, que l'idée lui venait parfois de se donner la mort. Mais, caché sous les couvertures, il ne bougeait pas. Midi sonnait. Il se levait, se rendait à son bureau machinalement, à l'heure où toutes les maisons de commerce sont fermées, écrivait quelques lettres, puis allait déjeuner dans un petit restaurant de cocher. À mesure que l'après-midi s'écoulait, il reprenait vie et ses rêves lui semblaient de plus en plus réalisables. Il faudrait, pensait-il alors, jouer à la bourse. Il faudrait réaliser tout ce que je possède et le jouer. Si cela réussit, je suis sauvé. Si cela rate, eh bien, tant pis, cela ne sera pas pire que maintenant. Il s'excitait sur ce projet, d'autant plus que ce dernier l'empêchait de penser à la jeune fille. Il ne lui venait pas à l'idée qu'en cas de réussite, elle pût continuer à demeurer introuvable ou ne point vouloir partager sa vie. Comme ces gens qui ne croient jamais qu'ils sont la cause de leur malheur, il lui semblait que, du jour où il aurait réussi, Eliane, prévenue par quelque voix mystérieuse, reviendrait à lui sans qu'il eût besoin même de la chercher. Après avoir trempé dans une foule d'affaires compliquées, desquelles il était sorti chaque fois amoindri, après avoir tenté des spéculations qui avaient toujours tourné à son désavantage, après avoir vendu jusqu'au droit au bail de son appartement, Pierre Neuhard se retrouva, 5 ans après le départ de la jeune fille, sans argent, sans situation, sans rien. Il avait à présent 43 ans. En ces dernières années, il avait terriblement vieilli. L'ambition et la douleur l'avaient miné. Découragé, voûté, ruiné, il vivait dans un petit hôtel de Montmartre, prenait ses repas dans un restaurant, faisant une réduction par 10 tickets, subsistait grâce aux quelques centaines de francs qu'il réussissait à extorquer à d'anciennes relations à qui il faisait pitié. Les après-midi, il les passait sur les champs de course, car le jeu qui lui avait fait tout perdre continuait à demeurer son seul espoir. Et quand il n'avait pas de quoi risquer dans une course, il se passionnait autant pour le résultat que si son avenir en dépendait. Il traînait dans de petits bars où il rencontrait des figures de connaissances avec lesquelles il s'entretenait de combinaisons financières mirifiques tout en buvant apéritif sur apéritif. À partir de 9 heures du soir, un léger tremblement agitait ses doigts. Son visage maigri et pâle se creusait encore et l'ensemble de sa personne prenait peu à peu un aspect usé et flétri. Pourtant, il éclatait parfois de rire à propos d'une boutade. C'est alors qu'il faisait le plus de peine. On avait l'impression que ce rire l'épuisait, qu'il le prolongeait pour se faire illusion et que la violence de cet accès devait le rendre nerveux au point de lui ôter, quand il se couchait, le sommeil. Mais l'image d'Eliane était toujours vivante dans sa mémoire. À chaque instant, il la revoyait, tantôt lui souriant, tantôt faisant une moue, tantôt encore grave et triste. Son sort, il l'avait accepté. Il savait qu'il ne la reverrait plus jamais, qu'elle n'était plus qu'un souvenir lointain comme sa jeunesse, comme la guerre. Souvent, il allait se promener dans les parages du boulevard Pereire. Il vivait alors des minutes délicieuses. Tout ce que la vie avait fait de lui disparaissait. Il restait seul avec lui-même, comme si, 40 ans durant, il eût vécu dans une île. Dans chaque rue, il lui semblait voir passer Eliane. Quelquefois, cette impression était si forte que tout disparaissait pour laisser devant ses yeux la silhouette de quelque passante à qui son imagination prêtait la démarche et le corps de la jeune fille. Mais pas un instant, l'intention de toucher ce fantôme, de lui parler, ne lui venait. Il savait qu'il ne s'agissait que d'une construction de son esprit, et si elle suffisait à l'émouvoir, il n'en ignorait pas moins qu'elle se fût évanouie au moindre geste. Le soir, quand il se retrouvait dans sa petite chambre toute pleine de manies, de choses à leur place et de désordre, il s'asseyait près de la fenêtre qui donnait dans une rue étroite, sillonnée toute la nuit d'automobiles. Il commençait par écouter les trompes, les cris des femmes ivres, puis, insensiblement, il se remettait à penser à Eliane. Si elle était malheureuse, elle aussi, songeait-il. Des rêves insensés lui venaient à l'esprit. Il la rencontrait. Elle était pauvre et perdue, sans amitié, dans Paris. Elle se souvenait de tout ce qu'il avait fait pour elle. Elle avait pitié de lui. « Nos deux vies misérables, disait-elle, en feront une heureuse. Ne nous quittons plus, aimons-nous, puisons dans notre amour la force de recommencer une existence meilleure. » Il se levait et sa fatigue alors apparaissait plus grande. On eût dit que, parce qu'il était seul, il ne la cachait plus. En marchant, il s'appuyait aux meubles. Il n'essayait même pas de se redresser. Pas un instant, il ne songeait à se regarder dans une glace, à passer sa main dans ses cheveux gris, à effacer sur son visage un point noir, avec lequel il resterait jusqu'à ce qu'un mouvement en dormant l'effaçât. Ses yeux brillaient. Une expression de joie illuminait ses traits, mais c'était tout. Il demeurait voûté, comme avant, aussi lent dans ses mouvements, aussi épuisé. Finalement, il se couchait. Dès qu'il se livrait à la moindre occupation, il ne songeait qu'à cette dernière, et tout ce qui avait fait l'objet de ses réflexions disparaissait. Il ouvrait avec soin le lit, s'assurait qu'on ne lui avait pas ôté une couverture, passait sa main sur l'oreiller pour le rendre aussi lisse que du marbre, la glissait ensuite sous les draps jusqu'aux pieds, à cause de la crainte puérile qu'on ne lui eût fait la farce de cacher quelque objet ridicule. Puis il se déshabillait avec une lenteur extraordinaire, pliait soigneusement ses vêtements tachés et finalement se couchait, ayant pour l'espace du lit qu'il ne recouvrait pas ce regard du soldat allongé sur une planche pour le vide qui l'entoure. Mais il ne dormait pas d'une traite jusqu'au matin. Quand il s'éveillait, s'il se retrouvait sur le dos après avoir dormi sur le côté, il essayait de s'expliquer comment cela avait pu se faire. Puis, tout à coup, il mettait ses bras en croix. Il n'y avait personne à ses côtés. Il se souvenait alors d'Eliane. Dans l'obscurité, il l'appelait doucement. Il s'imaginait brusquement qu'elle était à sa gauche et il se tournait vers elle. Il lui parlait comme à une enfant, car plus le temps passait, plus l'image qu'il se faisait d'elle était jeune. Il lui racontait des histoires ridicules, lui promettait de lui acheter, quand elle serait plus grande, un vrai cheval, une automobile, des choses avec lesquelles on peut se déplacer. Immobilisé par l'âge et le découragement, il voulait la voir courir, sauter, voyager. Il vivait ainsi avec elle plusieurs minutes, puis, si voulant faire de la lumière, il ne trouvait pas le commutateur, il l'oubliait complètement, persuadé que des démons s'acharnaient contre lui. Il se levait, ouvrait sa porte qui donnait sur un corridor, et à la lumière triste venue du dehors, s'assurait que son commutateur existait toujours. Il s'enfermait alors, se recouchait, et tout en pestant contre l'hôtelier, finissait par dormir. L'ambition qu'il avait de devenir riche afin de reconquérir Eliane n'était pourtant pas morte en lui. Mais ce n'était plus que machinalement qu'il se rendait sur les champs de course. De même qu'un homme frappé en pleine force de cécité continue à vivre, à se nourrir, à sortir, de même il continuait à jouer. Ses calculs étaient de plus en plus compliqués. Il risquait sans croire à la chance. Il n'avait plus confiance qu'en ses sélections laborieuses. Si le cheval choisi par lui arrivait dernier, il ne se fâchait pas et, le soir, cherchait patiemment à expliquer cette défaite par les performances passées. Il n'était plus pressé de gagner. Si son heure ne venait pas, c'est qu'elle ne viendrait pour personne. À la fin de l'après-midi, il se rendait dans un café dont les consommations, bien qu'il fût étincelant de lumière, n'étaient pas coûteuses. Il avait coutume d'y prendre l'apéritif avec quelques camarades de rencontre, tous joueurs. Quand il arrivait le premier, il s'asseyait dans un coin et, peu après, le souvenir d'Eliane se présentait encore à lui. La soirée de Madame Aspy lui revenait parfois à l'esprit. Elle avait eu lieu il y avait 6 ans, et pourtant, comme cela lui semblait loin. Il se rappelait l'attention qu'il avait suscitée, toutes les questions qu'on lui avait posées, certains invités comme Monsieur de Petite-Pierre, Mademoiselle Dufaux, et au milieu de tout ce monde, deux yeux jeunes et souriants posés sur lui, ceux d'une jeune fille. « J'étais tout de même quelqu'un !» pensait-il alors, déjà grisé par les premiers apéritifs. « À ce moment, j'avais une certaine allure. je ne faisais pas figure d'exception. Mais dès qu'il cherchait plus loin dans sa mémoire et qu'il se souvenait de la conversation qu'il avait eue avec Eliane en la raccompagnant, il se sentait déjà plus proche de ce qu'il était aujourd'hui. « Eliane, Eliane !» disait-il à haute voix. « Où es-tu maintenant? Si tu es malheureuse, reviens à moi. Je te pardonne tout ce que tu as fait. » Il la tutoyait ainsi pour la rendre plus réelle. Il s'imaginait que, par-delà les maisons, par-delà la foule, elle l'écoutait quelque part dans la ville, qu'en l'entendant, elle se détournait de l'homme qui était à son côté, et que, si elle avait su où le trouver, elle serait accourue. Mais toujours un « Bonsoir, Pierre !» ou un « Bonsoir, Neuhart !» le tirait de ses rêveries. Elle s'évanouissait alors aussitôt, et comme si jamais Eliane n'eût existé, il se jetait dans des conversations sans fin, où il n'était plus question que de chevaux, dont les noms ne faisaient sourire personne. Tu n'avais qu'à le jouer puisque tu le voyais gagnant. Oui, mais je ne pouvais pas laisser Ribambelle, répondait un autre. Et ce n'était qu'à 8 heures du soir, lorsque le café était à demi désert, que l'on se séparait. Pierre Neuhart se rendait tout doucement à son petit restaurant. Lorsqu'il avait dîné, il repassait devant le café qu'il avait quitté 1 heure plus tôt. Il cherchait des yeux quelques figures de connaissance. S'il n'en trouvait pas, il s'asseyait à une table libre, et cette impression qu'il avait eue toute sa vie de donner plus qu'il ne recevait, il la ressentait de nouveau, bien affaiblie, il est vrai, puisque seul, il était revenu. Un soir, après être resté plus de 2 heures dans cette brasserie, Pierre Neuhart se prépara à partir. Les fêtes de Noël approchaient. Dehors, une pluie fine tombait sans interruption depuis la fin de l'après-midi. Les salles du café étaient pleines de monde. À chaque instant, de nouveaux clients poussaient les portes, d'autres se levaient. Pierre Neuhart, malgré la résolution qu'il venait de prendre, ne se décidait pas à quitter sa place. Il se sentait bien, au milieu de cette animation, sous cette lumière éclatante qui chassait sa tristesse. Des femmes, qui cherchaient quelqu'un ou qui se rendaient au téléphone, passaient sans cesse devant lui. Elles n'avaient aucun regard pour son visage maigri, pour ses vêtements usés, pour la tasse de café qui se trouvait devant lui. Il les examinait pourtant, ainsi qu'une mère qui a perdu son enfant, s'efforçant de découvrir sur chacune d'elles quelque chose d'Eliane. Comme l'homme qui a été riche savoure l'indifférence de ceux qui, l'étant encore, ne lui portent aucun intérêt, il jouissait du dédain que lui témoignaient ces inconnus. Elle ne se doutait pas qu'il avait aimé une jeune fille plus belle qu'elle toute. Malgré sa déchéance, il souffrait alors dans son amour-propre qu'elle ne visse point Eliane à son côté. Tous ces regards dont il avait été si fier jadis lorsqu'il sortait avec la jeune fille, il ne les avait plus jamais sentis peser sur lui. Plus jamais il n'avait goûté cette profonde satisfaction d'être un point de mire. À présent, il s'isolait dans un coin et si, par hasard, quelqu'un lui adressait la parole, on ne se détournait que parce qu'un bruit de voix s'était élevé. S'il quittait quelque endroit, c'était au milieu de l'indifférence complète. Dans la rue, personne n'avait plus de prévenance pour lui. S'il entrait dans un magasin modeste, il n'y avait plus, comme avant, cet empressement, ces yeux brillants posés sur Eliane, cette politesse qui le faisait se redresser. Des petites employées ne se retournaient plus sur son passage et les hommes conduisant des automobiles regardaient toujours devant eux. Il était seul. Il pouvait tomber qu'on l'eût porté dans une pharmacie comme une chose. Son hôtelier ne le regardait même pas quand il entrait. C'était un vieil homme, seul et pauvre. Il se souvint alors de ces soirées qu'il avait passées avec Eliane dans la salle du fond de quelque brasserie à jouer aux cartes. Quand il gagnait, on avait joué pour rire. Mais s'il perdait, comme la partie, tout à coup, avait été sérieuse. Ce soir-là, enveloppé de fumée et de bruit, il suivait des souvenirs heureux, un à un, perdus au milieu d'une foule, ne se doutant même pas de son existence, lorsque tout à coup, il sursauta. « Eliane ! » cria-t-il. Une jeune femme qui se faufilait entre deux tables se retourna. Elle regarda Pierre Neuhart, ses voisins, puis, de nouveau, celui qui l'avait appelé. « Ah, c'est vous ! » dit-elle sans étonnement. Pierre Neuhart avait pâli. Il essayait de se lever, mais la table l'empêchait de se mouvoir. Ses mains tremblaient. Il avait de petits gestes de vieillard. Une rougeur subite couvrit son front, ses joues, comme une étoffe brûlante. « Ne vous dérangez pas, » fit Eliane, « je reviens dans un instant. Je devais téléphoner à 10 heures et il est 10h20. Je reviens tout de suite. Ne bougez pas, je reviens. Je reviens. Je reviens. » Sur ces mots, elle s'éloigna, non sans se retourner pour lui sourire. Pierre Neuhard, comme épuisé, se laissa tomber en arrière contre le dossier de la banquette. Ses lèvres étaient séparées, il semblait respirer avec peine. Il eut alors la sensation qu'on parlait de lui, que ses regards de jadis étaient posés sur son visage, que, sous toutes ces lumières, il se trouvait au centre de la salle. Il se redressa, caressa une seule de ses joues, ses cheveux, une manche de son veston, le bois lisse de la table. Il poussa sa tasse, la remit devant lui, caressa de nouveau ses cheveux. Il ne pensait à rien, ne voyait rien. L'émotion, la joie, la peur, la honte d'être aussi misérable le faisaient haleter. Malgré les efforts qu'il faisait pour ne pas changer, pour être le même homme que celui, solitaire, qui avait été assis à cette place, il se trahissait à des sursauts, à des contractions de la bouche. « Eliane ! Eliane ! Eliane ! » dit-il sans séparer ses lèvres pour qu'on ne l'entendît pas. À certains moments, il lui apparaissait plus évident encore que tout le monde l'observait. On eût dit que ses membres, comme ceux d'un enfant timide sur une scène, allaient s'immobiliser, se raidir en des mouvements horribles. Il semblait prêt à mourir de gaucherie, et cela, cependant que personne ne faisait attention à lui. « Eliane ! » répéta-t-il. Elle se tenait devant lui et le regardait gentiment. « Faites-moi une petite place, » dit-elle. Il n'avait pas songé avant à la lui faire. La confusion le fit rougir de nouveau. Il avait l'impression que tous ses voisins ne le quittaient plus des yeux, qu'il pensait que cette jeune fille lui faisait un trop grand honneur en s'asseyant à son côté. Il se recula sans oser la regarder. À chaque instant, il commençait un geste qu'il n'achevait pas. Il sentait sur sa nuque une sueur chaude. Et tout à coup, il se mit à trembler durant quelques secondes, absolument comme si on l'eût secoué. « Vous attendez peut-être quelqu'un ?» demanda Eliane. « Non, non, je n'attends personne. »« Alors je m'assois un instant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » Eliane n'était plus une jeune fille. En ces 4 années, elle avait pris une sorte d'assurance dont elle ne s'apercevait pas. Elle ne parlait plus comme avant. On devinait que sa nervosité de jadis avait disparu, qu'elle avait réfléchi, qu'elle avait compris que, si elle ne changeait pas, elle serait malheureuse toute sa vie. Cette évolution avait été si naturelle qu'il ne lui venait pas à l'idée de la cacher. Elle ne savait pas tout ce qu'elle avait perdu pour mieux se défendre. Au contraire, elle se croyait à présent plus intelligente qu'auparavant. Elle s'appliquait à laisser deviner son expérience. « Je pensais bien qu'un jour je vous rencontrerai, » dit-elle à peine assise. Pierre Neuhard la regarda pour la première fois en face. Il eut alors nettement l'impression qu'elle était aussi pauvre que lui. Un manteau bordé de lapin-teint la vêtait. Ses ongles, longs et pas soignés, étaient couverts de vernis qui dégageait une odeur acide. Des bagues de bazar ornaient ses doigts. Un petit chapeau, agrémenté d'une boucle de fausse écaille, la coiffait. Et ses mains nues, émergeant de son manteau, comme celles d'un homme ne portant pas de manchette, tenaient un sac d'étoffe, décousu aux extrémités du fermoir. « Oui, j'étais sûre que je vous rencontrerais un jour ou l'autre, » continua-t-elle. « Vous savez, maintenant, j'ai bien changé. Je me débrouille toute seule. Vous avez vu, je viens de téléphoner. Si l'affaire réussit, je crois que je vais être engagée par l'Europa Film pour faire de la figuration. C'est le commencement. Après, j'aurai des rôles. Et vous, vos affaires vont-elles aussi bien qu'avant? Vous ne m'en voulez plus, j'espère. Si cela ne vous ennuie pas, nous pourrons être de bons camarades. On pourra se revoir de temps en temps. Quelquefois, je pense à vous, vous savez. Ce que j'étais bête alors, hein? Ne trouvez-vous pas, monsieur? Mais aussi, j'étais très jeune. Attendez, j'avais 17 ans. C'est une excuse, n'est-ce pas? Figurez-vous qu'aujourd'hui, justement, je me disais « Tiens, ce serait drôle que je rencontre M. Neuhard, et voilà que je vous rencontre. Encore a-t-il fallu que vous me voyiez, car moi, vous savez, je ne regarde jamais un homme. Si on les regarde sans faire attention, ils s'imaginent tout de suite qu'on cherche à entrer en relation avec eux. Ah, je ne vous ai pas dit que maman était dans un hôpital. Mais elle est libre, elle peut se promener, recevoir des visites. Seulement, il ne faut pas qu'elle sorte de l'hôpital. Je vais la voir tous les jeudis, mais elle ne me reconnaît que quelquefois. Tout de suite, elle s'imagine que je viens lui prendre ses petites affaires. Elle se sauve presque chaque fois dans sa chambre. Il n'y a pas de serrure, mais elle tient le bouton de la porte si fort qu'on ne peut pas ouvrir. Mais vous ne me parlez pas de vous. Vous habitez toujours boulevard Pereire. Qu'est-ce que vous faites? Racontez-moi un peu votre vie. Pierre Neuhart ne cessait de regarder Eliane. Il ne la reconnaissait plus. La jeune fille qu'elle avait été se dressait devant lui, dès qu'il se laissait aller, plus vivante que cette ombre. Insensiblement, sans qu'il s'en rendît compte, il redevenait près d'elle l'homme qu'il avait été. Aucune pitié ne naissait dans son cœur. Il avait oublié ce que lui aussi était devenu. Sa déchéance, son âge, sa vie ne lui venaient même pas à l'esprit. Il demandait inconsciemment à Eliane d'être pour l'homme qu'il était aujourd'hui, celle qu'elle avait été quand il était encore maître de sa destinée. « Mais qu'est-ce que vous faites maintenant ? » demanda-t-il finalement. « Ce que je fais ? Mais vous le savez bien, je vous l'ai dit, je veux devenir une grande artiste. On m'a toujours dit que j'avais les dons qu'il fallait. Il me manque malheureusement des protections, quoique j'espère en avoir d'un certain côté. » Dans le cinéma, dans le théâtre, c'est comme partout. Il faudrait, pour réussir, se prêter à certaines choses, et moi, je ne veux pas. Avec le talent que j'ai, d'après ce que l'on me dit, je dois arriver sans cela. Évidemment, c'est plus long. Au lieu d'être vedette tout de suite, je suis obligée de commencer par faire de la figuration. D'ailleurs, c'est en bonne voie. Je viens de téléphoner, je vous l'ai dit, à un monsieur qui a une place importante dans l'Europa Film. Si cela réussit, je suis obligée de partir pour la Suisse. Ils ont déjà commencé le film. Il doit se passer dans les montagnes. Enfin, après-demain, je dois voir ce monsieur et il m'a promis de me donner la réponse. Pierre Neuhart écoutait Eliane sans la comprendre. Petit à petit, il redevenait l'homme qu'il avait été avant qu'elle partît. Il ne la regardait plus, n'avait même plus la coquetterie de se tenir droit. Le souvenir d'Eliane l'emportait peu à peu sur la jeune femme présente. « Il est 11 heures, pas possible !» dit tout à coup Eliane. « Il faut que je vous quitte. »« 11 heures ? » répéta-t-il machinalement. « Au revoir, à bientôt, il faut que je me dépêche. »« Mais laissez-moi vous accompagner, » balbutia Pierre Neuhart. « Jusqu'à la porte, si vous voulez, pas plus loin. » J'ai un rendez-vous tout près d'ici et je ne voudrais pas qu'on me vise avec vous. » Il se leva, suivit Eliane. Arrivée dans la rue, elle s'arrêta. « J'aime mieux vous quitter maintenant, » dit-elle. « D'ailleurs, nous nous reverrons. Vous n'avez qu'à venir de temps en temps dans ce café. J'y viens aussi quelquefois. Nous finirons bien par nous rencontrer. Je vous quitte. Allons, au revoir. » « Mais vous ne m'avez pas dit si vous pensiez quelquefois à moi. » « Il faudra me le dire la prochaine fois. » Elle s'éloigna. Pierre Neuhart la regarda partir. Mais il y avait encore, malgré la pluie, malgré l'heure tardive, tellement de monde dans la rue qu'il la perdit de vue presque aussitôt.